J'ai appris donc que je passais à apostrophe. J'ai éprouvé immédiatement une grande paix. Mon livre, en certaine manière, eh bien, il allait peut-être, alors tu vois, c'est énorme ce que je veux dire, mais exister totalement. J'écris depuis 10 ans, mais je sais aussi qu'aux yeux des gens, on ne m'a pas vue à apostrophe. Donc, en un sens, je ne suis pas écrivain officiel. Hein. Bon, ben, c'est important. Et puis, je sais que apostrophe, c'est vraiment, pour moi, hein, personnellement, c'est le rite de passage.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux livres et à la télévision. À l'ordre du jour ce soir, de quelles ambitions culturelles se réclamait la télévision des années pivot? Vous venez d'entendre dans une émission de France Culture en 1984, Annie Ernaux qui parlait de son premier passage à apostrophe. L'annonce lundi de la mort de Bernard Pivot a ravivé des querelles anciennes sur la démocratisation culturelle par les médias de masse. À la création d'apostrophe en 1975, il n'y a que 3 chaînes de télévision, toutes de service public, ayant encore pour modèle le informer, éduquer, distraire, des débuts justement des médias publics. Dès l'origine de cette émission du vendredi soir, qui durera 15 ans, le grand public découvre un ton décontracté, joyeux et parfois franchouillard qui dénote avec les entretiens d'écrivains des années noir et blanc, un mélange des genres qui fait se croiser en plateau journalistes, écrivains et personnalités racontant leur vie par leurs livres, le tout alternant avec des grands entretiens de monstres de la littérature de l'époque. Mais le succès de l'émission et de l'effet pivot, comme on a dit à l'époque, sur les ventes en librairie provoque rapidement des accusations de marchandisation de la culture ou d'obsèques médiatiques de la littérature. Nous en parlons avec nos 3 invités. Maria Pourchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine, vous êtes autrice de western, entre autres, chez Stock, qui vous a valu le prix de Flore, et de Feu, auparavant, chez Fayard. Et vous avez écrit une thèse de sociologie de l'information qui s'intitulait « Les écrivains sur un plateau ». Enfin, en tout cas, vous en avez fait un documentaire pour la télévision qui s'appelait « Les écrivains sur un plateau ». C'est une thèse qui raconte justement le rapport de la littérature avec la télévision. Et puis avec nous également à distance, Philippe Claudel, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Laurentin.
Vous êtes écrivain, réalisateur, membre de l'Académie Goncourt et prix Renaudot pour Les âmes grises. Avec nous, 3e invité à distance également, l'historien Steven Kaplan. Bonsoir Steven Kaplan.
Salut Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un Américain de France puisque vous avez découvert la France en 1960 dans une ville qui s'appelle Poitiers et que vous avez ensuite travaillé sur le 18e siècle en tant qu'historien, mais vous vous êtes intéressé aussi à la façon dont la France commémorait la Révolution française avec un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque qui s'appelait Adieu 89. Vous avez suivi l'histoire culturelle de la France et nous en discuterons avec vous 3.
Au fond, au début d'ouvrir les guillemets d'apostrophe, je me suis dit, et c'était un langage implicite que je tenais à l'égard des écrivains, vous êtes des écrivains, vous êtes des intellectuels, vous avez un savoir qui est en vous, vous avez des souvenirs, vous avez des idées, ne les gardez pas pour vous, venez à la télévision les exprimer, mais venez d'une manière très simple, très familière, vous entrez chez les gens et vous devez leur expliquer ce à quoi vous croyez, pourquoi vous écrivez ceci, etc. Et je me suis tourné vers le public en disant « N'ayez pas peur des écrivains et des intellectuels. Ce sont des gens, évidemment, intelligents. Vous aurez plaisir à les côtoyer, vous aurez plaisir à les entendre. Donc, venez au rendez-vous que je vous fixe chaque lundi soir, quand c'était ouvrez les guillemets, chaque vendredi soir, quand ça a été apostrophe. Venez, je serai l'organisateur de ces rencontres, je serai le monsieur... »
L'animateur.
L'animateur, je serai le monsieur loyal. Venez, soyez confiants. Et je disais aux écrivains... sans leur dire vraiment, j'ai lu vos livres, je les aurai tous lus, je les aurai annotés, je vous poserai les questions que j'ai envie de vous poser, et je pense que ces questions vous feront plaisir, vous pourrez vous exprimer, et je me tournais vers le public en me disant, venez à ces rendez-vous, car je poserai les questions aussi que vous avez envie de poser, et vous ferez connaissance de gens qui sont d'une qualité souvent bien supérieure aux gens que vous voyez sans arrêt à la télévision, qui sont des hommes politiques, des sportifs, des chanteurs, etc. Donc venez voir, vous aurez un rendez-vous hebdomadaire de l'intelligence, je vous y convie, ça a été ça mon rôle.
Alors voilà, c'était Bernard Pivot interrogé dans À voix nue sur France Culture en 1991 par Robert Mallet. Est-ce que justement ce que dit Bernard Pivot correspond à ce que votre travail de thèse que vous avez mené sur les rapports entre écriture et télévision, justement cette réinvention dont il se pense l'auteur d'une certaine manière, Bernard Pivot, par rapport à une télévision d'avant qui ne correspondait pas exactement à ces critères-là?
Ah oui, exact. C'est absolument pas usurpé ce qu'il dit. J'ai regardé, donc j'ai passé 4 ans dans les entrailles de l'INA et j'ai regardé 50 ans d'émissions littéraires. Donc il y en a eu presque 140 différentes entre les années 50 et le début des années 2000. Symptomatiquement, dans les 20 premières années ou avant Pivot, et là où on voit où Pivot a marqué une rupture, c'est que pendant 20 ans, on cherche on cherche des formats, on essaye beaucoup de choses et c'est un véritable atelier d'exploration. Et après Pivot, il n'y a plus rien d'autre que le modèle qu'il a inventé, le modèle apostrophe bouillon de culture, qui est encore le modèle dominant aujourd'hui. On n'a inventé que le programme court. Alors, si j'ai un peu le temps de développer. Donc, qu'est-ce qui se passe avant? Avant, donc, ça commence, la première émission littéraire, c'est 1953, avec Dumayet. Elle est contemporaine de la naissance du livre de poche. Et c'est pas anodin, puisqu'elle va se mettre un peu dans la même mission malrussienne de démocratisation de la culture, d'abattement des barrières physiques de la culture.
Malrussienne dans le sens de André Malraux à l'époque.
De André Malraux, oui. Et ça, c'est beaucoup plus, finalement, Pivot qui va le réussir que cette télé-là, parce que c'est une télé de Happy Few.
Peu de téléspectateurs, il faut dire.
Déjà, techniquement, parce qu'il y a 6% des foyers jusqu'au milieu des années 50 qui ont la télé. Ça explose dans les années 60, donc ça se justifie moins. C'est une télévision qui est faite par des profs, par des journalistes de l'écrit. Les historiens l'ont appelée l'école parallèle, c'est pas pour rien. C'est une télévision qui fait court, qui cherche, et ça Dumayet le disait, Dumayet, il voulait mettre la télévision au service de la littérature, alors que Pivot dira qu'il veut faire le contraire. Donc elle cherche à comment matérialiser le texte. On est obsédé par la matérialisation du texte, faire écouter le texte, ce qu'on oubliera entièrement ensuite. On veut la mettre au service de l'auteur, donc on va beaucoup visiter l'auteur. Donc ça, nous, ça nous fait des archives formidables.
Des grands entretiens. Dumayet, des groupes avec aussi
voilà,
des
soit c'est en plateau, soit c'est des face-à-face, soit on va chez eux et c'est des programmes qui sont nourris par une mythologie de l'écrivain au travail. Mais il n'y a pas de langage télévisuel. C'est-à-dire qu'on va importer le langage du cinéma, de la radio, de la presse écrite, de l'amphi, de la salle de classe. Ça ne s'assume pas comme spectacle et surtout ça oublie ce tiers absent. S'il n'y a pas de mesure d'audience, hein, ça commence un peu à la fin des années 60, ça oublie ce tiers absent qu'est le public. Et enfin, ça n'a aucun impact commercial, donc ça n'implique pas la chaîne du livre. Et je dis tout ça parce que Pivot va réformer absolument tout ça.
On va y venir justement. Et ça fait quel effet sur le jeune qui est né au tout début des années 60 que vous êtes, Philippe Claudel? Et qu'est-ce que vous en retirez justement de cette télévision quand vous naissez en Lorraine justement et que vous regardez ces premières émissions de Bernard Pivot, j'imagine au milieu des années 70, soit au tout début si c'est Ouvrez les guillemets, soit un peu plus tard si c'est Apostrophe.
Oui, moi j'ai commencé avec Apostrophe, en fait, donc en 75, et c'est vrai que, sauf accident, je ne ratais jamais une émission. Pour moi, c'était exactement ce que Bernard avait expliqué, c'est-à-dire mettre à la portée du plus grand nombre la littérature, inviter finalement chez nous, chez soi, des écrivains qu'on n'aurait jamais auparavant rencontrés, en tout cas sans son aide. Donc il y avait un côté extrêmement familier, il y avait un rendez-vous aussi qui devenait hebdomadaire, suivi par le fameux cinéma de minuit qui était aussi une autre école, avec Claude Jean-Philippe,
école. C'est une sorte de ciné-club pour moi, par la télévision.
Bien sûr, c'est ma culture cinéphilique, c'est faite avec les ciné-clubs de lycée et le ciné-club de Claude Jean-Philippe.
Je vous rassure, la mienne aussi.
Mais ce qui était important aussi avec Pivot, c'est ce qui vient d'être souligné, c'est-à-dire que des groupes, c'est vrai qu'on était encore dans une sacralisation de la littérature, alors que Pivot, qui n'était pas un intellectuel, c'est ce qu'il faut préciser aussi. Il aimait souvent à rappeler qu'il était mauvais élève, qu'il n'avait pas une formation intellectuelle, qu'il n'avait pas vraiment fait d'études, il était journaliste vraiment de façon viscérale. Mais son rêve, son projet, c'était de faire découvrir des livres au plus grand nombre. Et le fait que, justement, ce soit cet homme-là qui en parle et qui nous présente les écrivains, je pense que ça contribuait immédiatement à rapprocher cette scène, ce plateau, extrêmement mis en scène, comme l'a rappelé Maria Pourchet, des personnes qui le regardaient à une heure, faut-il le préciser, de très grande écoute.
Oui, 9h30 tous les vendredis soirs, effectivement. Stephen Kaplan, vous arrivez, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début des années 60 en France. France, vous découvrez la France, vous vous accoutumez à ce pays de façon assez formidable pour l'enfant de Brooklyn que vous êtes, et puis vous allez devenir donc le grand spécialiste à la fois des crises frumentaires au XVIIIe siècle, et puis ensuite l'historien du pain que vous êtes aujourd'hui. Mais auparavant, vous découvrez cette culture française. Est-ce que cette découverte passe aussi par les émissions de Bernard Pivot ?
Absolument. J'étais, moi, je suis venu en France parce que il me manquait de la conversation. Il me manquait de la vivacité dans des échanges. Parce que on n'avait pas envie d'être intellectuel ou même de s'intéresser aux idées. Et moi, le plaisir pour moi, les vendredis soir, c'est, je me suis dit, bon, ça valait le coup de passer 7 heures à obtenir ma carte séjour parce que l'heure que j'ai avec Pivot était tellement nourrissant et tellement excitant que je me suis dit, c'est vraiment pour moi tout bénef. Je trouvais chez Pivot une espèce de, je sais pas, la notion même d'apostrophe, il y a quelque chose d'un peu violente là-dedans. On interpelle. Lui savait interpeller avec douceur, parfois une certaine méchanceté. Il ne craignait pas le débat et il avait une vraie volonté de traiter les idées. Ça m'a beaucoup ému. Ça m'a fasciné et ça m'a rassuré que mon choix de la France était la bonne.
Oui, une certaine méchanceté, disait à l'instant Stephen Kaplan. Maria Fourchet, c'est vrai que tous les éloges funèbres disent il était gentil, il était bienveillant, mais c'était visiblement pas le cas pour ceux qu'il connaissait de près. Puis surtout, il avait cette façon de surprendre ses interviewés de façon un peu, de les prendre un peu à froid. On sait évidemment qu'Anne-Marie Bourgnon préparait l'émission, qu'ils étaient en loge en train d'attendre peut-être que le maître Pivot vienne leur serrer la main. Et en fait, ça ne se passait pas. Il arrivait sur le studio au dernier moment, dans le studio au dernier moment. Et c'était là que commençait véritablement l'affrontement, pourrait-on dire des fois. Parce qu'il y a une culture... Alors on dit, oui. Est-ce que c'est une culture du clash ?
C'est une culture du sport. La culture du clash, elle vient...
Plus tard.
Elle vient plus tard, mais je pense que Pivot a été un maître pour Ardisson. Donc Pivot, il vient du sport. C'est pas qu'un critique littéraire, c'est un critique sportif. Et il importe quelque chose du spectacle sportif. Il arbitre, il est au centre, ça c'est important, le centre, parce que c'était pas le cas avant. Il crée des oppositions, il dramatise, il connaît le public, il a l'instinct du public, ce que ses prédécesseurs n'avaient pas. Il connaît le public et il accueille tout le monde après 20 ans, je l'ai dit, d'émission d'Happy Few, et même quelques années avant où le débat de plateau... Michel Pollack avec Postscriptum, où les gens, où c'est parisien, c'est un peu hermétique, où on ne s'entend pas parler, c'est noyé par la fumée de cigarette.
Et ça n'est pas encore droit de réponse qui viendra après.
Ce n'est pas encore droit de réponse, qui est un tout petit peu plus discipliné, mais à peine. Et lui, donc, il a... Ces émissions vont... J'insiste sur le sport parce que ce qui fait le succès de ces émissions, c'est qu'elles tiennent sur la tension entre la règle et le débordement, entre le spectacle et la discipline. La règle, ça c'est un point très important chez Pivot, c'est que c'est le premier qui discipline les auteurs. Je pense que le plus simple, c'est de raconter une anecdote, enfin, une archive que j'aime beaucoup. C'est une des premières émissions où c'est encore un petit peu le boxon hérité des plateaux de la télé de 68. Et il a invité Rob Grier et Pérec aussi. Il les invite souvent ensemble, je ne sais pas pourquoi. Et Rob Grier fait converger toute l'attention vers lui. Il raconte des vannes, il fait des effets de connivence avec les autres gens du plateau. Et à un moment, Pivot en a marre. Il prend un bouquin sur la table, il tape un coup, il dit « Rob, silence. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais à la télé, il y en a un qui parle et les autres qui écoutent. » Littéralement. Oui, c'est, vous pouvez retrouver le...
l'archive.
Et donc, c'est le maître absolu du plateau. Rapidement, c'est lui la vedette d'ailleurs. Hein, c'est ça qu'à un moment, il y a même un jour indirect où Philippe Labreau lui reproche directement. Dit, arrêtez de faire semblant que c'est moi la vedette, tout le monde sait bien que c'est vous. Et donc son autorité, cette autorité disciplinaire va en plus reposer sur l'effet Pivot, c'est-à-dire qu'effectivement c'est quelqu'un qui peut vendre 2 millions de livres dont on n'a jamais entendu parler de l'auteur et c'est un premier livre. Aujourd'hui, je pense que c'est Hervé Le Tellier avec le Goncourt qui fait ça dans le monde entier. Enfin, je parle sous le contrôle de Philippe Claudel, j'en sais rien exactement. Et ça devient, donc ce spectacle-là devient la première instance de consécration. concurrente à d'autres. Et donc ça, c'est pour la règle. Et le débordement, le spectacle, il identifie les bons clients très vite. Donc ce que ça va créer, et ça aussi on va lui reprocher, c'est qu'il va y avoir des... Dormesson, il est venu 15 fois. Et donc, vous parlez de clash. Alors, c'est pas exactement des clashs. On est au temps du direct dangereux. Ça c'est mort depuis. Donc ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus cruel. Typiquement, par exemple, il a parce que au départ il est très bon homme, il est très sympa. Il y a deux archives qui me viennent en tête là. Il invite un auteur qui s'appelle Lou Durand, il parle de tous ses livres, et puis une fois qu'il a vraiment donné son
curriculum,
il a vraiment fait la promo de Lou Durand, il sort ses livres, et puis il sort un livre de Sulitzer en disant « Et vous êtes aussi l'auteur des livres de Sulitzer, donc je préfère le dire aux spectateurs ». C'est inouï, un truc comme ça. Et l'autre dit, non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bah si, je peux le dire, parce que j'ai la responsabilité du public, et vous savez très bien que j'ai raison, et il passe à autre chose. Et sinon, si j'ai encore une seconde, je pense qu'il y a pour moi, l'archive qui dit tout de la perversité joueuse de Pivot, c'est le jour où il invite Mazneff. Et donc, il présente le livre de Mazneff, je sais pas pour quel torchon, un journal, ou... Et il en fait curieusement trop. Et il dit, ah bah quand même, beaucoup de scènes olé olé, avec des petits garçons, bah quand même, comme vous y allez, et tout. Et il a l'air tellement camarade qu'il y a un effet de contagion avec les autres invités, comme c'est lui qui a l'autorité. Les autres auteurs ricanent jaune. Ah bah tiens, il faut... Mais il a invité aussi une Canadienne qui s'appelle
Denise Bombardier,
et qui est un peu plus en avance apparemment sur ce qui est un scandale ou ce qui l'est pas. Et il lui donne « Ah, tenez, Denise, vous vouliez parler ?» Et Denise dit « Bah oui, moi je trouve que votre monsieur Mazneff, il est dégoûtant. Et qu'en France, on sert de la littérature pour, en gros, éponger des insanités pareilles, je ne comprends pas. » Et là, Pivot, il n'y a pas de mouvement de caméra, mais on peut deviner le petit sourire. Et Mazneff disparaît derrière ses lunettes.
C'est pourtant la scène qu'on lui reproche parce qu'on dit qu'il n'a pas été suffisamment au secours de Denise Bombardier.
Non, il a invité. Il allait au secours de personne. Hein. Il a invité Denise Bombardier et quelqu'un a dit ça sur le plateau.
Philippe Claudel et Steven Kaplan, justement, sur cette gentillesse. Vous l'avez bien connu, Philippe Claudel, puisque vous êtes maintenant à l'Académie Goncourt et vous l'avez connu donc dans la pratique de la présidence de cette Académie pendant longtemps. Est-ce qu'il y avait cette gentillesse qu'on lui attribue habituellement, ou est-ce qu'au contraire, il y avait justement une vision très, très aiguë des rapports de pouvoir au sein du monde littéraire ?
Alors, je l'ai connu en fait de deux façons, puisque je l'ai connu...
Comme auteur.
Comme auteur, lors de deux émissions, c'était plus apostrophe, c'était Bouillon de culture, mais le principe était le même. Et c'est vrai qu'en fait, lorsqu'on était invité... on ne voyait pas Bernard Pivot avant, enfin, il nous saluait juste à la sortie des loges, on le rejoignait sur le plateau, et après l'émission d'ailleurs il s'esquivait assez vite, il allait dîner avec Anne-Marie Bourgnon, avec son équipe, mais il ne fréquentait pas les auteurs. Et puis sur le plateau il est tel que tout le monde l'a connu. Dans la vie privée, dans la vie de l'Académie Goncourt, qui est quand même un cénacle de compagnons et de compagnonnes, on est seulement 10, hein. C'était à la fois un juré, puis un président absolument chaleureux, drôle, pertinent, cocasse, curieux de tout, malicieux, et je prendrais plutôt ce terme de malice plutôt que de méchanceté. Ouais. Bernard n'était pas quelqu'un de méchant, mais c'est vrai qu'il avait, comme le disait Maria, le sens du spectacle. C'était un homme de spectacle, c'est-à-dire que il faisait effectivement un show et il essayait de réunir sur son plateau tous les ingrédients pour le rendre attrayant et piquant. Et lorsqu'il sentait finalement que la tension n'était pas assez bonne, assez forte, susceptible de vraiment satisfaire le téléspectateur, il en rajoutait un peu. Donc il savait à la fois composer les plateaux et aussi relancer la dynamique et créer parfois effectivement des affrontements. On en a rappelé de célèbres, on les a tous en mémoire pour les autres. Mais c'était pas de la méchanceté, c'était plus la malice, le professionnalisme. Et puis aussi le fait de mettre en scène un vrai spectacle qui soit à la fois un plaisir peut-être pour l'intellect, mais aussi le plaisir du bon mot.
Oui, et on voit bien aussi, on a parfois accusé, je disais tout à l'heure en ouverture, qu'on l'a accusé d'être franchouillard, mais on voit bien aussi, on l'a accusé de ne pas être très curieux des autres littératures, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand on lit, quand on a vu régulièrement les émissions de d'Apostrophe, en particulier les émissions sur les écrivains francophones, il y en a eu pas mal. Et je crois que des gens comme Daniel Laferrière lui ont rendu hommage pour justement avoir ouvert des portes dans ce domaine-là. Est-ce qu'il était curieux, par exemple, de la littérature américaine ou de l'Amérique ou des États-Unis en général, Stephen Kaplan?
Mais il ne faut pas oublier des émissions avec Tom Wolfe. Tom Wolfe était sans doute, comme Paul Auster et comme d'autres, mieux que nous en France qu'ailleurs. L'émission sur William Styron, qui était étonnante, il est tombé amoureux de Jane Fonda sur scène. Woody Allen, il a joué avec. Non, je crois qu'il était, il avait un côté franchouillard, c'est vrai, mais franchouillard haut de gamme, avec des grands vins de Bourgogne, avec des Romani Conti. Mais il avait aussi un côté très cosmopolite. Je me souviens quand il m'a téléphoné une fois pour me dire excusez-moi de vous poser cette question, mais j'ai eu beaucoup d'historiens chez moi, mais j'ai jamais compris c'est quoi exactement l'école des annales.
Quand on a reçu effectivement Emmanuel Laura-Ladurie, Georges Duby et bien oui, d'autres, oui. Y compris Fernand Braudel, ça doit interroger tout de même.
Exactement, mais il m'a dit, je vous pose la question parce que vous êtes américain et vous allez avoir un regard qui peut-être pour moi serait plus intéressant que ce que j'ai tous les jours. Non, je crois que c'était un monsieur qui avait un appétit, même une boulimie pour tout ce qui bougeait intelligemment. Et donc, il trouvait de l'autre côté de l'Atlantique des gens intéressants. Mmh. Et j'ai trouvé ça assez formidable. J'ai fait une émission avec lui qui s'appelait Double Jeu. Mmh.
C'est une émission après Apostrophe, effectivement, sur la francophonie en particulier.
Exactement. Et là, c'est très frappant d'avoir discuté avec lui assez longuement. Et il voulait savoir, justement, est-ce qu'il y avait une culture française aux États-Unis? Est-ce qu'on arrivait à faire parler le français? Quelles étaient les perspectives pour un réel dialogue avec les Américains? Donc, je trouve que il était formidable pour nous expliquer, parce que le roi Ladurie avait du mal, pourquoi les gens se dépouillaient les uns les autres dans les chambres infectes de Montaillou, mais il avait aussi un intérêt très très vif pour ce qui se passait dans les écoles, dans les universités américaines. Mmh.
18h42 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. De quelle ambition culturelle se réclamait la télévision des années pivot? Nous sommes en compagnie de Maria Pourchet, qui est écrivaine, mais qui a aussi fait une thèse justement sur la question du rapport de la télévision avec les écrivains. Philippe Claudel, qui est écrivain, réalisateur et membre de l'Académie Goncourt. Et Stephen Kaplan, qui est historien.
J'ai rêvé. Je rêvais de Bernard Pivot. C'était quelqu'un d'autre qui parlait avec Pivot. Et alors, c'était extraordinaire. C'était quelqu'un qui était moi, en fait. Mais j'étais dans mon rêve, j'étais là aussi, mais c'est quelqu'un d'autre qui parlait avec Pivot. Or, comme c'était une femme, je me demandais ce qu'elle disait à Pivot. J'étais presque jalouse. Et quand je me suis réveillée, ensuite, j'ai compris seulement que cette autre femme, ça devait être moi. Parce que c'était sûrement moi. Alors, au-delà, je ne sais pas interpréter, mais j'ai rêvé de quelque chose. Le lecteur, il a un contact, peut-être immédiat avec mon livre. Mais avec moi, ma gueule, ma figure, peut-être qu'il ne l'aura pas. Il y a quand même ça. Vous voyez, une chose qui me fait un peu peur, c'est que je me rends compte que de plus en plus, l'émission de Pivot, il faut être drôle. Il faut être amusant. Il faut, tu vois, avoir des qualités spirituelles. Hein. Alors c'est pas sûr. D'abord avec mon bouquin, c'est pas spécialement un livre dans ton sens. T'as pas sur les cuisses, tu vois. Mais c'est ça qui me fait le plus peur.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Annie Ernaux, interrogée en 1984, juste avant son passage pour La Place sur le plateau d'Apostrophe avec Bernard Pivot. C'était un formidable documentaire signé pour France Culture par Claude Duneton qui s'appelle « Chronique de la langue parlée, la peur des écrivains de... ». Une sorte d'examen, pourrait-on dire, Marien Pourchet, que de passer chez Pivot. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher non plus. Que vous le disiez pour Louis Durand,
oui,
par exemple.
Et puis dans chaque émission, ça ne marche pas pour tout le monde. Puisque quand on a étudié un peu de presse, qu'on a appelé l'effet Pivot, donc la fonte des piles de livres dès le lendemain en librairie, on a acheté le livre d'un seul. Effectivement, de celui...
Il fallait faire un choix.
Voilà,
ils étaient six sur le plateau.
C'est ça, de celui qui avait fait le show le plus convaincant. Et en plus, on disait que c'était l'effet Pivot, c'était l'achat et pas la lecture. Ça, j'en sais rien. Mmh. Mais Pivot, j'ai retrouvé, pour préparer l'émission, je regardais des vieux trucs et j'ai retrouvé un vieux numéro des Cahiers du cinéma consacré aux émissions littéraires où... assez jeune, Pivot dit que, en fait, lui, il respecte la télé. Et que c'est pas un moment où on pense encore que c'est pas un média de seigneur. Et lui dit, elle a un langage qui, effectivement, il est réducteur et stimulant. Et ça, j'ai bien aimé. Et donc, réducteur parce que on n'a pas le temps d'approfondir, donc ce n'est pas la peine d'essayer, puisqu'on va perdre les gens. Mais il faut quand même, voilà, il faut quand même...
Divertissant et stimulant, d'une certaine manière.
Non, réducteur et stimulant, c'est pas pareil. C'est mais parce qu'il assume que ce soit réducteur, mais il faut quand même en faire quelque chose. Et stimulant, parce que l'auteur doit se défendre lui-même et il n'a pas l'habitude. Et ça, les auteurs... voilà, s'en rendre compte, c'est insupportable.
Mais que fait-il, ou pourquoi, d'une certaine manière, de grands intellectuels, on a souvent cité depuis sa mort Régis Debray, mais aussi Henri Méchonnic, qui dit, apostrophe, c'est le triomphe de la littérature par le visage des écrivains, d'une certaine manière, donc très éloigné de ce que vous disiez de Pierre Dumayet, par exemple, avec les émissions précédentes, ou alors Philippe Muret, qui est d'une cruauté absolument terrible, qui dit, Pivot et son peuple, sa fausse bonasserie postille, ses fous rires de pucelle, ses yeux ronds, sa jovialité de ballot du Danube, ses extases d'épicier empâté, ses lunettes sur le front, ses finasseries de fanfare municipale et ses pseudo-sévérités de maître d'école ballonné de fleurs de rhétorique le désignaient pour être l'animateur idéal d'une longue cérémonie funèbre, celle de la littérature en fait. Il l'accuse d'avoir tué la littérature par le spectacle télévisuel.
Alors là, ça me paraît très, très violent. Et puis les... Au moment où Pivot commence, hein, donc c'est ouvrez les guillemets dans les années 70. 71, je dis 70 parce que ça, il avait fait une première chronique, sa première apparition télé, c'est dans une émission qui s'appelait Italique, une émission un peu hermétique, un peu parisienne, comme elle l'était beaucoup à l'époque. Et il fait une chronique où il compare, il explique le best-seller en le comparant à un melon, en faisant les gestes, le melon qu'on renifle, dont on jette la moitié à la fin. On voit déjà que il se passe quelque chose. Mais ensuite, on a de vraies mesures d'audience et c'est le public qui choisit Pivot. C'est pas, il a tordu le cou de personne. Hein.
Et c'est ce qui fait effectivement que cette émission apostrophe durera 15 ans. Philippe Claudel, justement, est-ce que vous qui avez discuté avec lui longuement, est-ce que ces attaques d'un certain milieu intellectuel, on pense aussi à Gilles Deleuze ou d'autres, pour avoir en particulier porté au pinacle et monté les nouveaux philosophes dans une émission célèbre, par exemple, pour avoir critiqué aussi assez fréquemment le communisme tel qu'il était pratiqué en URSS et avoir accueilli Solzhenitsyn, etc. Est-ce que ces critiques l'avaient touché ou est-ce qu'au bout du compte, tout compte fait, c'était son rôle que de le faire ?
Oui, je crois que c'était son rôle de le faire. Ces critiques-là, elles étaient tellement violentes. Enfin, vous avez rappelé le texte de Muret, que ça, finalement, ça n'avait aucun effet sur lui. On peut presque y voir une forme de...
Dommage.
Dirais-je, de jalousie et dommage indirect, oui, en tout cas en négatif. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que je disais souvent à Bernard, c'est que avant toi, on écrivait des livres. Avec toi, non seulement il faut écrire des livres, mais en plus, il faut venir en parler à la télévision. Et ça, le rêve d'Annie Ernaux, il est très intéressant lorsqu'elle dit qu'elle se bidouble et que soudain elle voit une femme. Et parce qu'en fait, elle ne fait dans son rêve que matérialiser ceci, c'est-à-dire que l'écrivain était devenu aussi une figure médiatique. Et je disais, Bernard, tu es devenu un montreur d'écrivains, comme on a des montreurs d'ours. Donc, comme disait Maria, c'est vrai qu'il y en avait certains qui soudain crevaient l'écran. attirer l'attention. On se souvient peut-être de Vladimir Jankélévitch, mm-hmm. qui était un véritable philosophe et qui venait sur le plateau pour un livre ardu, le Je ne sais quoi, elle presque rien, je crois me souvenir. Et qui avait tellement, si vous voulez, ce visage que le grand public imagine être celui d'un vieux philosophe qui fait ses recherches seul dans sa mansarde, qu'il a vraiment fait une apparition fulgurante, et dès le lendemain, le livre s'est énormément vendu, et évidemment, il ne s'est pas énormément lu, parce que les gens, soudain, ont découvert que c'était un livre vraiment de philosophie. Mais voilà, il y avait des figures comme ça qui émergeaient. On a parlé tout à l'heure de Jean de Hormesson. Maria disait qu'il était venu 15 fois, mais entre apostrophe et bouillon de culture, il est venu 26 fois d'Hormesson. Mmh. Et on peut presque dire que c'est Pivot qui a créé d'Hormesson. Ouais. Il a créé le personnage d'Hormesson, il a créé l'écrivain d'Hormesson, de la même façon que Patrick Modiano lui est énormément redevable aussi, parce que il y en a certains
au qui point qu'il l'a invité, je crois, à Stockholm quand il y a eu la remise du prix Nobel.
Absolument. Mais ce qui a fait aussi le succès, j'allais dire, de l'incarnation de Modiano télévisuelle, c'est ce bégaiement, c'est cette impossibilité à finir des phrases. Et quand d'autres brillaient par leurs paroles, Modiano brillait par sa maladresse, mais ça a aussi forgé son personnage, et il était très redevable, pardon à Bernard, puisque effectivement il l'a invité à la cérémonie de remise du Nobel à Stockholm, et Bernard a dû louer un smoking queue de pisse qu'il n'avait jamais fait de sa vie.
Ouais. De votre côté, Steven Kaplan, qui donc observait la France à la fois de près et de loin, vous dites souvent qu'effectivement, une des particularités de cette télévision-là, en tout cas de l'exigence d'une sorte de télévision publique, c'était de tenter quand même de niveler par le haut et non pas par le bas les spectateurs, c'est-à-dire de leur proposer quelque chose d'un peu plus élevé que ce que, d'une certaine manière, ils auraient pu attendre de la télévision.
Écoutez, on n'a qu'à comparer ce qui se passe en France avec d'autres pays, notamment aux États-Unis. Je ne pourrais jamais imaginer Nabokov, qui était un peu américain après tout, à la télé américaine. Quand vous ouvrez les chaînes américaines qui pullulent, qui prolifèrent depuis longue date, on n'a pas cette possibilité d'entendre parler des idées. On n'a pas, c'est même pas une question de fabrication de tel ou tel auteur, c'est même pas une question de petite guerre entre promoteurs antagonistes. C'est qu'aux États-Unis, ça c'est juste pas possible. Or, quand je pense à des grands moments pour moi chez Pivot, je pense à Yourcenar, je pense à la démolition qu'avait fait Simon Leys d'une
maîtresse
extraordinairement
Maria Antonietta Macchiocchi. Ouais, qui était professeur à Paris 8 et qui défendait le maoïsme sur son plateau. Et Simon Leys, qui a été celui qui avait écrit les habits neufs du président Mao, avait
formidable.
Détruit effectivement la pensée maoïste, pourrait-on dire.
Ouais. Et je pense à Alfred Fabre-Luce et Aristide Seydoui. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'antisémitisme. Voilà un moment où on parlait à la télévision, dans prime time, d'un sujet qui n'était pas un sujet très confortable, et c'était pas un sujet de tous les jours. Donc, pour moi, je vous envie. Et ceux qui tirent sur Pivot, qui tirent sur Pouillot, je crois que c'est la petitesse, c'est un esprit étriqué. Et je crois que vous avez raison, c'est un peu la jalousie.
Oui, et pour vous, Maria Pourchet, il y a tout de même un moment où arrive, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était les prémices des sondages d'audience. Et ça va sûrement changer quelque chose, en tout cas, y compris à la télévision publique, à partir des années 80 et surtout des années 90.
Alors, ce que ça change, donc c'est bon, le magistère de Pivot se confirme, et l'éclatement suivant, après l'éclatement de l'ORTF et ensuite le développement d'autres chaînes, jusque dans les années 80, on voit apparaître plein d'émissions de littéraire qui copie le modèle Pivot. C'est là qu'on voit qu'il y a une rupture. C'est, en quelque part, il gèle le genre. Et il y en a, mais vraiment plein. Elle dure un an. Elle dure parfois 6 mois. Et la plupart s'arrêtent au bout d'un an, oui. Et à la fin des années 80, il n'y a plus grand-chose. Il y a Bouillon de culture, apostrophe, s'arrêtera à la fin des années 90. Pour un an. Et après... Pivot ne parviendra pas à rester loin de la télé, il reviendra avec Bouillon de culture. Mais si on se demande, tiens, qu'est-ce qui a fait que ces autres émissions, parce qu'il y a eu des très belles propositions, que ces autres émissions n'ont pas fonctionné, c'est parce que ce n'étaient pas ce que les analystes appellent des programmes anthropomorphiques. On peut reprocher à Pivot de faire le clown, comme le disait Muret, mais en tout cas, le fait qu'on identifie tellement l'émission à lui, il personnalise tellement l'émission, c'est que c'est pour ça qu'on va voir les écrivains. Et symptomatiquement, les émissions qui ont un peu fonctionné après, enfin en tout cas dont la durée est éloquente, c'est Frédéric Fernet, par exemple, sur droit d'auteur, ça a duré des années, mais dans un tout autre genre, plus Happy Few, pour le coup, c'est aussi un programme anthropomorphique. Et sinon, en dehors et les programmes qu'on connaît aujourd'hui, il y en a
La Grande Librairie, par exemple.
Voilà, ça peut être qualifié aussi de programme anthropomorphique, et sinon, c'est les programmes courts qui ont résisté, et le modèle Pivot, et pas d'autres.
Oui, Philippe Claudel, justement, sur ce modèle Pivot qui perdure malgré la disparition du bonhomme, et qui, d'une certaine manière, que beaucoup ont du mal à vouloir renouveler.
Oui, mais tout ce qui a été dit, c'est tout à fait juste, hein, ce que dit Maria, c'est vrai qu'il a...
Mais c'est un contexte, c'est une époque, il faut bien dire, c'est une époque, effectivement, et pas les 150 chaînes que nous avons aujourd'hui.
Vous l'avez rappelé au début de l'émission, Emmanuel Laurentin, trois chaînes. Donc ça, c'est effectivement incomparable. Mais cela dit, c'est vrai que ce qui est curieux, c'est que ce modèle semble quasiment gravé dans le marbre. Et toutes les autres émissions, que ce soit effectivement Droit d'auteur de Fernet, Vol de nuit de Poivre d'Arvor sur la Une, aujourd'hui La Grande Librairie, sont faites sur le même modèle, quoi. Donc on n'a pas réussi à réinventer, ou plutôt à inventer une nouvelle forme d'émission littéraire, sinon dans des programmes très courts. La grosse différence, si vous voulez, c'est que personne n'a encore pris cette place de géant qu'il avait réussi à se construire. Et il est tout à fait exact de dire que beaucoup de personnes, beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs, regardaient l'émission à un certain moment pour Pivot. Et grâce à cela, découvraient parfois des écrivaines et des écrivains. Mais la motivation de beaucoup, c'était déjà regardé Pivot.
Oui, il faut bien le reconnaître. Il disait à la fin de sa vie, je crois, il disait qu'il était un influenceur littéraire.
Oui.
Maria Pourchet, c'est ça.
Mais oui, vraiment. Enfin, l'effet Pivot, il était tangible.
Comme les influenceuses ou les influenceurs aujourd'hui voudraient, d'une
oui,
certaine
sûr,
manière.
Je me souviens là d'une archive où il avait invité une vieille dame, une agricultrice qui avait écrit La soupe aux herbes sauvages.
Ouais.
Ça a été il en avait vendu entre 2 et 3 millions après un passage chez Pivot, où effectivement il avait fait tout ce que Muret décrit. Quoi. Il avait fait le gars du village qui découvre étonné ce qui était arrivé à l'agricultrice quand elle était petite. Enfin, ça, c'est arrivé plein de fois.
Le rôle, par exemple, de Pivot pour pousser Nina Berberova, absolument inconnue à la fin des années 80 ou au début des années 90, et qui va faire le succès des éditions Actes Sud, par exemple.
On parlait tout à l'heure de cette émission de 77 avec les nouveaux philosophes. Alors, c'est vrai qu'il en a fait beaucoup sur les nouveaux philosophes, mais... Il reconsacre la même émission à BHL sur Bouillon de culture. Il lui montre les extraits et il lui dit en gros, bah, c'est un peu moi qui vous ai inventé avec votre chemise blanche très ouverte. Et BHL dit ah bah non, il faisait très chaud dans le studio, donc je l'avais ouverte. Et regardez, là c'est pas le cas. Et là Pivot dit devant tout le monde, bah c'est pas le cas parce que quand je vous montrais l'archive, vous l'avez refermée.
Merci beaucoup.
C'est-à-dire que lui aussi, il avait conscience de son pouvoir. De son pouvoir.
Merci beaucoup, Maria Pourchet. Je rappelle vos livres, évidemment, Western chez Stock et Feu chez Fayard, mais aussi le documentaire qu'on doit pouvoir trouver quelque part, qui s'appelle Les écrivains sur un plateau. Merci d'être venu nous en parler avec vous.
Merci.
Il y avait Philippe Claudel, écrivain, réalisateur, membre de l'Académie Goncourt. Merci à distance d'avoir été avec nous. Et merci à vous, Steven Kaplan, historien. On peut regarder sur le site de France Culture et sur le site du Temps du Débat vos livres, justement, pour pouvoir aller y voir de plus près. Audrey. C'était Le Temps du Débat, préparé ce soir par Roxane Poulin, Juliette Moellic, Fanny Richet, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Sébastien Royer. Mais vous écoutez France Culture, il faut vous préciser que demain, Marie Richeux consacrera le Book Club à un hommage à Bernard Pivot, comment se saisir de l'écriture par l'entretien télévisuel avec des auteurs, et que le quatrième épisode de À voix nue demain de Caroline Brouet est avec Robert Bobert, qui parlera du livre à la télévision, mais tel qu'il l'avait réalisé, avec en particulier les portraits d'écrivains de Pierre Dumayet.